Nous lisons dans le livre des Juges un texte au chapitre 13 et à partir du verset 1er. Juges, chapitre 13 et à partir du verset 1er. Le livre des Juges, c'est dans l'Ancien Testament. Après le livre de Josué, vous avez le livre des Juges, chapitre 13, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, mais il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, on aurait pu dire, commença à se manifester à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Chapitre 16, verset 4. Chapitre 16, verset 4. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent : « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson : « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ? » Et nous allons au verset 15. Elle lui dit : « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit : « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire : « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors : « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit : « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Et puis le texte que vous avez à l'écran, dans son contexte, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous pouvons lire au chapitre 4 et à partir du verset 7. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Je trouve, mais vous me direz si j'ai raison ou pas, je trouve qu'il y a un décalage entre cette grande puissance, le texte que je viens de lire, selon les traductions, il est parlé de puissance extraordinaire, voire de puissance qui est transcendante, de cette puissance incroyable. Il y a un décalage, me semble-t-il, entre cette grande puissance qui habite le chrétien et notre réalité du quotidien. Je trouve qu'il y a un décalage. Je trouve qu'il y a un sacré décalage. D'ailleurs, un quotidien qui est permis par Dieu, soit dit en passant, parce que nous lisons, dans le même contexte, c'est l'apôtre Paul qui le dit, hein, il dira ceci, « Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes dans la détresse. Nous sommes persécutés. Nous sommes abattus. » Où est donc cette grande puissance ? Où est donc cette grande puissance ? De vous à moi, évidemment, si on dit de quelqu'un qu'il est très fort et qu'il a une grande puissance, il doit se débarrasser de tous ses inconvénients. Hein. Ça ne devrait pas le tourmenter, ça ne devrait pas l'accabler comme ça le fait. Il y a un décalage, quelque chose qui est surprenant. Et finalement, c'est exactement le même décalage avec ce fameux juge Samson, dont on a lu quelques morceaux de son histoire. Parce que quand on lit la vie de Samson, de sa naissance à sa fin, à sa mort, il y a un délitement. Hein. Il y a quelque chose de décousu. Ce qui ne faisait qu'un, ce qui était très, très clair au départ, il servira Dieu, il a été choisi par Dieu, il glorifiera Dieu toute sa vie, c'est terminé de façon plutôt misérable. Néanmoins, il demeure un héros de la foi, puisqu'on le trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Donc on ne va pas évidemment avoir un jugement trop sévère avec cet homme. Le fait est qu'il y a un décalage. Évidemment, il y a quelque chose qui me perturbe dans cette histoire de Samson et je me dis que ça aurait pu ne pas se terminer comme cela. Qui est d'accord avec moi ? Ceux qui m'écoutaient, ceux qui me regardaient ? Non ? Ouais. Non, vous en pensez quoi ? Samson, ça aurait pu se terminer autrement quand même. Parce que de terminer en disant « je veux tuer plus de gens que je n'en ai tué durant toute ma vie », c'est un peu bof, hein ? Et de mourir dans les circonstances dans lesquelles il mourra, alors au demeurant, évidemment, il y a un aspect du plan divin qui nous échappe, évidemment. L'histoire des juges, la période des juges est assez déroutante et bien souvent, Dieu a choisi des hommes comme Samson, comme d'autres, afin qu'ils éliminent leurs ennemis. Mais il y avait des ennemis parce que le peuple avait abandonné l'Éternel. Il y a toujours une cause, il y a toujours une raison. Et au départ, c'est le peuple d'Israël qui s'égare. Au départ, dans nos vies, dans notre quotidien, quand des choses basculent et quand des choses vont moins bien, au départ, c'est nous le responsable. À un moment donné, Dieu permet. Et malgré tout, cette grande puissance, cette puissance extraordinaire, elle doit nous habiter. Elle doit quand même nous habiter. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, comme dit l'apôtre Paul, vous l'avez compris, dans toutes ces difficultés, de résister au désespoir, à l'abandon, à la perdition, finalement à tout perdre. C'est ce qui nous permet de résister. Mais est-ce que dans le quotidien, on ne pourrait pas avoir une pratique un peu plus évidente pour ceux qui nous entourent, de cette grande puissance qui nous habite ? Parce que finalement on n'a pas bien conscience de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ce qui expliquerait ce décalage, ce qui expliquerait qu'on n'est pas comme Dieu le veut, on ne fait pas ce qu'il dit, on n'agit pas comme il le veut, on ne parle pas comme il le souhaiterait. S'il y a ce décalage, c'est qu'on n'a peut-être pas totalement conscience de porter en nous cette fameuse puissance extraordinaire, ou tout du moins, a-t-on peut-être l'impression justement d'être bien debout et de ne rien craindre ? Ce serait l'autre pendant. L'apôtre Paul dira que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Samson était debout. Ce n'était pas une illusion. Il était debout. Il restera debout pratiquement toute sa vie, jusqu'au moment où on l'a lu ensemble, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Jusqu'à ce moment-là, cette puissance extraordinaire l'habitait, cette puissance, grande puissance l'habitait, il l'a utilisée, s'en est servi, il a été un instrument pendant un temps entre les mains de Dieu, mais ça a dérivé. Alors on va revenir sur cette dérive et comment il a pu en arriver là, Samson, avec la première chose qui est évidente, regardez l'héritage de Samson, son héritage. Un héritage, par définition, ce n'est pas mérité. Ce n'est pas mérité. Les héritiers ne méritent pas. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça n'a pas été gagné à la sueur de leur front. Et certains ont très bien géré leur héritage. Et puis d'autres l'ont très mal géré parce qu'ils n'avaient jamais eu l'habitude, soit du goût de l'effort, du travail, de la récompense, etc. Parce que depuis qu'ils étaient tout enfants, ils avaient baigné dans un milieu où, par exemple, on ne manquait pas d'argent, pas besoin de travailler, il y avait des serviteurs ou des employés à la maison, etc. etc. Donc, c'est une façon de vivre qui n'est pas celle du commun des mortels, c'est à part. Et certains ont mal vécu leur après. Par définition, quelqu'un qui vit dans un contexte très privilégié sera gâté par la vie, gâté par la nature, gâté par les histoires du passé qui ont fait qu'il ne lui manquera rien. Mais le fait est qu'il faut apprendre à vivre avec ces choses-là. Et peut-être apprendre de ces choses-là. Et c'est là où j'en viens. Vous avez vu quand même dans quel contexte cet enfant est né, dans quel contexte Samson est arrivé au monde. On le dit toujours, et c'est tellement vrai, qu'un enfant n'a pas demandé à venir au monde. Ceci étant, les parents ont été tout contents d'avoir cet enfant. Parce que manifestement, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'y arrivait pas. Sa maman... malheureusement, ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile, et donc le combat a été mené, puis à un moment donné, on a compris qu'on n'aurait pas d'enfant, et Dieu fait un miracle. Dieu vient en personne, c'est Dieu qui vient en personne, s'adresser à tout d'abord la femme pour lui expliquer qu'elle va devenir enceinte, mais que l'enfant qui naîtra, il faudra le consacrer, il faudra le mettre à part, il sera consacré à part. Les parents de Samson, tous les deux, ont vécu une belle expérience ce jour-là. Et quand elle va rapporter ça à son mari, il va retourner voir celui qui a parlé à son épouse, qui n'est autre que Dieu. D'ailleurs, plus tard, il va lui demander son nom en disant « Mais comment est-ce que tu t'appelles ?» Et la réponse sera très claire. « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et quand cet ange de l'Éternel partira, dans le sacrifice qui va être offert partira au ciel, disparaîtra de cette manière-là, tous les deux seront convaincus qu'ils venaient de passer un moment avec Dieu face à face et ils ont craint de mourir. La révélation qu'ils ont eue était exceptionnelle, elle était extraordinaire. Néanmoins, j'en viens à ce qui est intéressant. Il a eu des parents pieux qui étaient attachés à Dieu et ils vont vivre des choses miraculeuses. Je n'imagine pas qu'ils n'ont pas à un moment donné expliqué à leur fils comment il était né. Pas le côté pratique, le côté spirituel. Comment il est venu au monde. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement heureux d'avoir cet enfant? Est-ce qu'il ne s'est jamais posé la question « Pourquoi j'ai pas de frères et sœurs ?» Par exemple. Question que certains pourraient se poser. Ah, ben tu sais, ça a été difficile de t'avoir. Ah bon ? Oui, on n'a pas pu avoir d'enfant pendant très longtemps. Mais alors, à un moment donné, ça a marché. Oui, mais c'était miraculeux quand même. J'imagine qu'on a dû en parler de ces choses-là. Et j'imagine d'autant plus qu'ils ont dû en parler parce que vous avez remarqué les recommandations que Dieu a faite à la maman. À partir de maintenant, puisque tu deviens enceinte, tu ne bois ni vin, ni liqueur forte, et tu ne manges rien d'impur. Marrant, c'est la même recommandation aux femmes enceintes aujourd'hui. Hein. Ne buvez pas, ne fumez pas, rien de mauvais, ça peut atteindre le bébé. Mais là, il y avait cette connotation spirituelle, rien d'impur pour cet enfant, car cet enfant sera consacré. Et en fait, l'enfant sera soumis aux mêmes règles. On ne lui coupera jamais les cheveux. Vous qui êtes parents, vous êtes peut-être tous passés par là. Quand vos enfants étaient tout petits, vous avez dit « Oh, on ne coupe pas les cheveux, ils sont trop beaux. On les garde longtemps, mais à un moment donné, il faut quand même les couper. Hein. » Surtout si c'est un garçon. En général, les cheveux de bébé ne sont pas les cheveux qui pousseront par la suite. Donc, on est obligé de le faire. Mais lui, il ne faudra pas lui couper les cheveux. Et ça a dû pousser quand même. Hein. Et même si à l'époque, les cheveux étaient plutôt longs pour tout le monde. Hein. Évidemment, homme ou femme. Hein. Mais vous imaginez quand même qu'à un moment donné, il a dû se poser la question en discutant, en voyant les autres enfants, en disant « mais j'ai l'impression d'être différent ». Parce qu'il va être soumis à un régime aussi, lui aussi. En fait, ça porte un nom. Ça porte un nom. Comme il était consacré à Dieu, dans l'Ancien Testament, on appelait ça le Naziréa. Le Naziréa. Et quand vous regardez l'explication du Naziréa, vous avez ça dans le livre des Nombres, je vous le cite au chapitre 6, il est dit ceci, et au verset 1er, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu pendant tout le temps de son naziréat. Il sera consacré à l'Éternel. » Alors, au départ d'ailleurs, le naziréat était quelque chose pour toute la vie. Hein. Et puis après, on a assoupli les règles et ça pouvait durer qu'un certain temps. Mais vous avez compris que les règles étaient très strictes. Donc, il va vivre d'une manière très stricte, bon gré, mal gré. Mais si vous n'expliquez pas pourquoi on fait cela, il va mal le vivre quand même, l'enfant. L'enfant a besoin de comprendre pourquoi il y a ces restrictions sur sa vie, pourquoi est-ce qu'il ne vit pas comme les autres, et il a besoin de comprendre que Dieu l'a choisi. Ça, c'est le bon côté des choses. Dieu l'a choisi. Alors, son héritage, c'est sa naissance, mais il n'y a pas que ça, parce que chaque être humain est unique, vous êtes unique, évidemment, il n'y en a pas deux comme vous, il n'y en a pas deux comme vous, mais vous êtes unique également par votre caractère, tempérament, même si la vie nous façonne, même si les expériences peuvent modifier un caractère, changer une personnalité, vous avez votre propre personnalité, vous êtes vous. Et on ne peut pas vous copier, on peut juste vous altérer, on peut vous nuire, on peut vous faire du tort, mais un tempérament. Quand vous regardez un enfant, vous savez. Vous savez s'il est calme ou s'il est nerveux. Vous le savez, non? D'ailleurs, on va se poser la question, pourquoi tous les enfants aujourd'hui sont nerveux? Des enfants calmes, ça n'existe plus, c'est bizarre. Hein, ouais, perturbateurs endocriniens peut-être. Et allez savoir, tout un tas de choses. Les enfants sont vifs, les enfants sont... Mais on réalise également si un enfant est caractériel. Ça se voit, parce qu'un enfant speed, ce n'est pas forcément un enfant caractériel. Un enfant qui se laisse faire et un enfant qui ne se laisse pas faire, ça se voit tout de suite. Ça se voit avant la maternelle. Ça se voit. Il y a des enfants, vous allez leur prendre leurs jouets, ils vont hurler, ils vont taper, ils vont cogner parce qu'ils ne veulent pas. Puis il y en a d'autres, ils vont se laisser faire et ils vont pleurer tout seuls. Caractère de l'enfant. C'est, c'est, c'est son ADN en fait. Et ça, c'est un héritage. Dieu l'a construit comme cela. Dieu lui a donné ceci comme son propre héritage. Et puis, Samson, c'est devenu une force de la nature. Force de la nature. On le représente d'ailleurs toujours comme cela. Je sais bien qu'il y a des petits secs très nerveux et très forts. Mais en général, les grands costauds, ils sont plus forts. Non, ça aide les muscles. Si vous avez des muscles comme ça ou des muscles comme ça, ça fait une différence. Pour courir vite, pour porter du poids. Et Samson, on a lu ensemble que très rapidement, l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter, c'est-à-dire à se servir de lui. Donc, il a manifesté de la force, beaucoup de force. D'ailleurs, il nous est dit, c'est au travers de ces quatre chapitres que l'on trouve cela. Il nous est dit, par exemple, je vous donne un exemple, au chapitre 14, il fait un voyage avec son père, et sur le chemin, chapitre 14, verset 6, on est toujours dans le livre des juges, bien sûr, il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson parce qu'un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Et Samson, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il faut être costaud quand même, non? Il ne faut pas juste être en colère. Il faut être costaud quand même. Donc, il y a des enfants tout petits, ce sont des forces de la nature déjà. Vous avez vu qu'à l'âge adulte, on ne fait pas tous la même taille, on n'est pas tous bâtis pareil, qu'on ait fait du sport ou pas. Mais ça se retrouve chez un enfant. Chez un enfant. J'ai connu un enfant qui avait à peine 2 ans. 2 ans, il avait déjà les tablettes de chocolat. Il n'était pas allé à la salle de sport. Il est né comme ça. Et ça s'est confirmé en grandissant. C'est une carrure, c'est un costaud, sans faire d'effort. Alors pour peu qu'il fasse un peu d'effort. Donc Samson, ça c'est son héritage. Des parents pieux, il a vu, il a entendu, il a compris pourquoi il était né. Et puis son ADN, sa personnalité, et puis cette force de la nature. Tout ça, ça peut être de bonne qualité ou pas. Ça peut être un bien ou pas. Ça peut être une bénédiction ou pas. Vous qui êtes parents, est-ce que vous partagez vos expériences avec vos enfants? Est-ce que vous leur expliquez les choses de Dieu quand ils sont tout petits et même quand ils sont tout grands? Est-ce que vous leur en parlez encore? Est-ce que vous racontez ces choses-là? Parce que des parents pieux attachés à Dieu, c'est un privilège extraordinaire. C'est quelque chose de fabuleux. Et toutes ces choses-là, il faut en parler. Est-ce que vous parlez à vos enfants de votre foi, de vos combats, de vos luttes, sans forcément rentrer dans trop de détails, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la transmission, c'est une nécessité. Une nécessité. Il ne suffit pas de dire à un enfant, tu seras beau parce qu'on est beau, tu seras intelligent parce qu'on est intelligent, ça ne veut rien dire. Mais par contre, parler du plan de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu pourrait faire, ça va cultiver, non pas l'imagination, mais en tous les cas, de l'espoir dans le cœur d'un enfant qui se voit, en l'occurrence, bien différent. En général, un enfant, à un moment donné de sa croissance, il sera mal dans sa peau, visiblement. Il ne sera pas bien en lui, mais c'est comme ça qu'il se construit. À ce moment-là, l'héritage, la transmission, certainement que ça lui servira à quelque chose et ce sera nécessaire. Et puis maintenant, les enfants, vous les enfants, vous pouvez très bien vous plaindre en disant « Moi, mes parents, ils ne me disent rien. » Mais est-ce que vous leur posez des questions? Est-ce que vous les interrogez? Est-ce que vous allez vers vos parents en disant « Il y a un truc que je ne comprends pas, tu ne voudrais pas m'expliquer? Je vis quelque chose, je ne comprends pas. Tu as vécu la même chose? Comment tu t'en es sorti? Comment vous avez fait ?» Ça va dans les deux sens. Ce n'est pas les parents qui disent aux enfants « On a raison et tu te tais. » Et ce n'est pas les enfants qui disent « Mes parents ne m'ont rien dit, donc ils n'ont rien à me dire. » Je crois que la transmission est importante. À la fois, elle est importante parce que Samson devait en avoir besoin, évidemment. Parce qu'en matière de foi, en matière de certitude, en matière d'expérience, il a besoin d'un cadre, il a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Parce que quand, en allant vous promener, vous êtes capable de mettre KO un lion et de le couper en deux, de le déchirer en deux, qu'est-ce qui pourra vous résister? Est-ce que vous n'allez pas être saisi par un sentiment « je suis très fort, je suis le plus fort » ça pourrait vous jouer des tours, ça pourrait vous nuire. On a toujours besoin, évidemment, de comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi je suis né dans cet endroit, à cette époque, dans ce pays, et pourquoi Dieu m'appelle, et pourquoi Dieu m'a choisi, et à quoi ça sert tout ça. On a besoin d'avoir des réponses, et je pense que ça passe par le fait de la transmission, et puis ce côté caractériel, caractère impulsif, c'est un sanguin. Vous relirez les différentes périodes, expériences qu'il va vivre. C'est quand même assez terrible parce qu'il va être rempli de colère, il va être orgueilleux, il va être vaniteux, il va se venger, il va tuer des centaines de personnes. C'est un homme violent, mais il n'est peut-être pas né forcément avec toute cette violence, mais il l'a cultivée, malgré lui, il l'a cultivée. Et puis ça a mal tourné. On voit bien dans l'histoire de Samson que ça n'a pas bien tourné. Tout ça pour dire qu'un héritage, eh bien, ça peut être lourd à porter et embarrassant, mais ça peut être fabuleux aussi et ça peut être une réelle bénédiction. Alors Samson, on voit bien que il a peut-être pas tout maîtrisé. Je souhaite qu'on lui ait tout dit, mais c'est pas évident qu'il ait pu tout maîtriser de cet héritage. Maintenant, quand on voit son éducation, nazirien. Donc, privé de plein de choses, privé. Quand vous étiez consacré, mis à part, vous étiez privé. On voit bien que, d'une manière, j'ai appelé ça l'appétit charnel. J'aime bien manger, j'aime bien boire, eh ben, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. On a vu dans le livre des Nombres, tout ce qui était lié au raisin, boisson enivrante, etc. Tu n'as pas le droit, tu n'en prendras pas, etc. Privé. Ainsi, voilà. Privé, certainement, au point de vue affectif, hein, parce qu'il nous est dit que, comme ils étaient consacrés, ils ne devaient pas se souiller par un animal mort, une bête qui était tuée, ou alors un homme, une femme qui était mort. Vous imaginez, dans la vie du Naziréen, quand il perdait ses parents, quand ses parents mouraient, ou quand ses frères et sœurs, ou quand quelqu'un de très proche mourait, il n'avait même pas le droit d'aller, il n'avait même pas le droit de s'approcher pour répandre son cœur, pleurer, ce qu'on veut tous faire. Il n'avait pas le droit parce qu'il aurait été souillé. C'est une privation affective, c'est un manque affectif sans aucun doute. Et puis pour l'apparence, même si à l'époque ce n'était pas la mode des dreadlocks, ben lui il y a eu droit, hein. Il y a eu droit des tresses, hein, 7 tresses. Je ne sais pas si c'était très à la mode, mais on pouvait repérer de loin qu'il était. Peut-être que son apparence comme ça ne devait pas trop lui plaire, mais tu n'as pas le choix, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Privé, privé, privé. Mais la vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas une vie de privation, c'est juste une autre réalité. L'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que de la vie chrétienne, il est évident qu'on pourrait en garder que les effets les plus agréables. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider, j'ai tellement besoin de toi. Mais l'apôtre Paul était conscient d'une chose. Il dira ceci dans l'épître de Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6 et au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Dans la lettre qu'il envoie aux chrétiens de la région de Galatie, aux Galates, il dit ceci au chapitre 5 et au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il ne s'agit pas de faire, comme certains font dans quelques pays du monde, où quand arrive la période de Pâques, ils se crucifient. On voit ça à la télé. Hein. Ils se crucifient pour faire comme Jésus, ou alors ils prennent des fouets avec des pics, des clous, et ils se flagellent jusqu'à avoir le dos en lambeaux pour être comme Jésus. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit absolument pas de cela. Être crucifié avec Christ, ce n'est pas le faire d'une manière concrète et réelle, certainement pas. C'est d'une manière spirituelle et imagée, ceux qui sont à Jésus-Christ ont abandonné tout ce qui salit le nom de Dieu, tout ce qui ternit le nom de Dieu, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et il suffit de regarder autour de nous pour s'en contenter et s'en satisfaire. Il est très facile de déplaire à Dieu. Tout ce qui est mensonge, violence, immoralité, tout cela déplaît à Dieu. Et il est facile de tomber dans ces choses-là. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont souhaité vivre une belle vie, une vie sainte, une vie qui plaise à Dieu. Une vie sainte, d'ailleurs, c'est rien de plus, rien de moins qu'une vie saine. Hein. Un esprit saint dans un corps saint, c'est facile, hein. Il y a tellement de choses qu'on peut éviter, mais il y a tellement de dérapages possibles. Alors, ceux qui sont à Jésus-Christ ont évité ces choses-là. Il me semble que avoir été crucifié avec Christ, ça n'aurait pas dû être un calcul trop difficile à faire. Ça n'aurait pas dû être quelque chose de trop difficile à appréhender et à vivre. Néanmoins, Samson a des conflits, Samson a des luttes, il a des combats. Il est courageux, il est vaillant, bien évidemment. Il s'est construit, comme je vous l'ai dit, dans de bonnes conditions. Et je pense qu'il avait tout pour réussir et devenir celui que Dieu voulait. Sauf qu'à un moment donné, ça a dérapé. Vous relirez, si vous voulez, à partir du chapitre 14. Il nous est dit qu'il est descendu dans une ville habitée par des Philistins, un autre peuple. Il a trouvé une femme, il l'a désirée pour femme. Ça ne se faisait pas, ça ne se pratiquait pas de cette manière-là. Il a insisté auprès de ses parents, il a fait un caprice, entre guillemets, et il a voulu cette femme. Il a failli avoir cette femme. Le jour des noces, il a apporté une énigme à tous les princes qui étaient réunis dans cet endroit-là. Et en fait, il va leur expliquer la fameuse énigme du lion qu'il a vaincu et qu'il a déchiré, parce qu'il l'a déchiré. Quelque temps plus tard, il repasse par là, et il y a le corps de l'animal qui est mort par terre, déchiré, et puis certainement dans un état de décomposition. Mais il se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un essaim d'abeilles qui s'est mis à l'intérieur. C'est curieux, hein, un essaim d'abeilles. Et quand il a vu cet essaim d'abeilles, il s'est rendu compte qu'il y avait du miel. Alors, il a pris du miel. Soit dit en passant, un Naziréen ne devait pas toucher le mort, la mort. Et là, ça ne lui fait rien. Il prend du miel, il en rapporte à la maison, il en donne même à ses parents, certainement sans leur dire où il l'avait pris. Hein. Parce que là, ils auraient grimpé jusqu'au plafond en disant « Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Donc, il a déjà des coupes dans sa sainteté. Il y a des choses qui ne vont pas bien là. Et puis, il va présenter tout cela le jour du mariage en proposant son énigme « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. » De celui qui mange le lion est sorti ce qui se mange le miel, et de celui qui est fort le lion est sorti ce qui est doux le miel. Et évidemment, il y avait un pari hein, sur la découverte de l'énigme. Ils ont cherché pendant des jours, mais si je ne vous l'explique pas, jamais vous ne trouverez ça. C'est impossible. Alors, ça a suscité de la colère, et il nous est dit que pendant plusieurs jours, ceux qui étaient là vont s'en prendre à la jeune épouse, en disant, si tu ne nous donnes pas l'explication, on te tue. Radical. Hein? Parce que ton mari, c'est un étranger, il vient chez nous pour nous voler, pour nous dépouiller, on n'accepte pas ça. Et elle va supplier son jeune époux de lui dire la vérité. Elle va lui expliquer. Et le fameux jour où il faudra donner la réponse, ils vont donner la réponse, sauf que Samson n'est pas bête. Et ils vont dire, vous m'avez piégé. Il va s'en aller. Et la rançon, c'était sans costume, sans vêtements de rechange. Il ne va pas aller dans un magasin pour acheter ça. Il va tuer 100 personnes, les dépouiller. Vous avez vu où on s'en va. Quelques temps plus tard, il est rentré chez lui, il a laissé tout ce village, cette famille. Quelques temps plus tard, il se souvient qu'il a une femme, donc il va pour la récupérer, sauf qu'elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Tu ne l'auras pas, tu es parti comme ça, tu as été un objet de malheur pour nous, on ne veut plus te voir. Furieux, il va dans les champs qui appartenaient à ces gens-là. Il attrape 300 renards, il faut le faire quand même, 300, et il va attacher à leur queue des espèces de broussailles enflammées et il les envoie dans les champs prêts à la récolte et tous les champs vont brûler. quand les propriétaires vont se demander « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a fait cela ?» et qu'on va dire « Samson, ni une ni deux », ils vont aller à la maison de sa jeune épouse et ils vont massacrer cette famille-là. Quand Samson va apprendre la chose, il va retourner vers ces gens-là et avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 personnes. Donc, c'est une escalade sans fin. C'est une escalade sans fin. En fait, pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien, parce que Samson, il a eu des choix à faire. Il a eu beaucoup de choix à faire. Et en fait, ces choix, on le voit bien dans son histoire, il abuse de sa position. Parce que tout marche bien, parce qu'il est colérique, parce qu'il se venge, parce que certains traits de caractère vont marquer le pli, ils vont être destructeurs. Il va abuser de la grâce qui lui avait été faite. S'il avait été choisi de Dieu, c'était une grâce. Si Dieu est venu frapper à la porte de votre cœur, mais c'est une grâce. Si Dieu m'a sauvé, mais c'est une grâce. Si Dieu vous a sauvé, mais c'est une grâce. Si Dieu a porté ses regards vers vous, mais c'est une grâce. Rien n'est mérité, c'est une grâce. Et en fait, il nous a sortis de l'enfer pour nous donner une belle vie. Il nous a sortis de la misère pour nous donner une belle vie. Et on abuserait de la grâce, comme Samson. Il déchire le lion, il profite du miel, il massacre ses ennemis, il se venge de ceux qui lui font tort. Il va se mettre en danger. Je ne sais pas si c'est son appétit simplement charnel, sexuel ou affectif qui a pris le dessus, mais toujours est-il qu'il va se mettre en danger et il va jouer avec le feu. Avant de passer ses dernières heures en voyant clair auprès de cette femme, Delila, il nous est dit que il va aimer une autre femme dans une autre ville. Et alors qu'il dort chez cette femme, tous ses ennemis vont encercler la ville pour lui mettre la main dessus. Et lui, en pleine nuit, se rendant compte de ce qui se joue, il va se réveiller. Il va être capable de saisir les battants de la porte de la ville et leurs poteaux. Et il va arracher tout cela, il va mettre ça sur ses épaules et il va s'en aller. Il n'est pas prêt d'être vaincu, cet homme-là. Sauf que quand il entre dans la maison de Delila, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les princes qui viennent proposent une fortune à cette femme. 1100 pièces d'argent chacun. On veut sa peau. On le veut. Et on le veut vivant. Alors, demande-lui d'où lui vient cette force. On n'a pas lu, mais on a vu le résultat 3 fois. Il va se jouer de cette femme avec qui il couche quand même, avec qui il a une relation, hein. Et elle n'est peut-être pas que charnelle, elle est peut-être affective aussi. Donc cette femme va lui dire, mais tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me dis pas la vérité. Plusieurs fois, il va se jouer d'elle. Je vous donne un exemple. Il va lui dire, elle lui demande d'où vient ta force. Et il lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais il rompit les cordes comme on rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu et on ne connut point d'où venait sa force. Une deuxième fois, il faut m'attacher des cheveux, une troisième fois, etc. Et à chaque fois, il se moque d'elle. Mais entre nous, il joue avec le feu. Il joue avec le feu. À un moment donné, elle va lui dire, parce qu'elle lui casse les pieds, « Tu me mens, tu m'aimes pas, tu me mens, tu dis pas la vérité, tu es comme les autres, etc. » Tout ce qui pouvait peut-être lui passer par la tête. Et puis à un moment donné, il va craquer et il va lui dire la vérité, « Je suis consacré à l'Éternel. » Jamais le rasoir n'est passé sur ma tête. Si on me coupe ces tresses, c'est l'image visible de ce que je suis au-dedans. Ma force m'abandonnerait. Même si je suis costaud, ma force m'abandonnerait. Cette fois-ci, elle a compris qu'il avait dit la vérité. Alors elle va l'endormir. Hein. En fait, ça fait longtemps qu'il s'endort. Hein. Ça fait longtemps qu'il est en train de s'endormir spirituellement parlant. Ça fait longtemps que tout lui échappe spirituellement parlant. Et c'est exactement comme ça que souvent, on s'éteint soi-même. Parce qu'on s'endort petit à petit, et de plus en plus loin, de plus en plus risqué, il abuse de ses dons que Dieu lui a accordés. Et en fait, il donne son secret. piégé et trahi par son orgueil. Je m'en sortirai comme les autres fois. M'en sortirai comme les autres fois. Je suis imbattable. Je suis inapprochable. On ne peut pas me mettre par terre. Je suis le plus fort. Sauf que si Dieu s'en va, ben le plus fort devient le plus faible. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Hein. Si Dieu s'en va, il ne reste pas grand-chose. Hein. Si Dieu s'en va. Alors, ça avait commencé avec ce miel corrompu, son âme corrompue. Ça finit par un corps brisé. Les Philistins se jettent sur lui. Et la première chose qu'ils lui font, ils lui crèvent les yeux. Maintenant, tu peux t'agiter, tu peux frapper, tu ne nous vois plus. Et ils vont lui crever les yeux. Et ils vont le ramener chez eux comme un trophée vivant. Hein, vivant. La honte, il va la connaître et pendant longtemps. Et ils vont le mettre à tourner la meule dans le moulin comme ça. Ce que les animaux faisaient d'habitude. Hein. Mais là, c'est lui qui le fait. J'ose pas imaginer le nombre d'enfants, d'adultes, de vieillards qui ont dû venir lui lancer des pierres, se moquer de lui, etc. Sauf qu'il entend bien, mais il ne voit plus rien. Et quelquefois, bien-aimé, spirituellement parlant, c'est la même chose. On entend. Eh, mais on ne voit plus. Hein. On ne voit pas la réalité dans laquelle on est. Hein. On ne voit pas ce qu'on est en train de glisser, qu'on est en train de tomber. Il faut se ressaisir, là. Il faut se ressaisir. Et c'est ainsi que sa vie aurait pu se terminer. J'ai mis sur la diapo d'après, vous allez la voir, que j'en reviens à ce que disait l'apôtre Paul, une grande puissance. Vous pouvez mettre la diapo d'après, elle ne tourne pas. Ah si, c'est bon. Une grande puissance. On peut lire la fin ensemble. Chapitre 16 du livre des Juges, verset 22. Chapitre 16, verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Et ils disaient, notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Qu'on apporte Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. 3000 plus ceux qui étaient dedans. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Et lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. On a lu tout d'abord que l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester entre Tsoréa et Eshtaol. Et c'est là qu'on est venu l'enterrer. Bien-aimés, si l'Esprit de Dieu vous habite, si cette grande puissance vous habite, il ne faudrait pas que vous l'enterriez à l'endroit où elle vous a visité, où elle vous habite, certainement pas. Il y a quelque chose qui me déçoit, il y a quelque chose qui me gêne dans la vie de Samson. Sa fin, elle n'est pas mieux que son début, hein. Franchement, elle a existé. Dans le livre des héros de la foi, il apparaît. C'est un mystère. Le fait est qu'il dira ceci, que je meurs avec mes ennemis. Je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourions avec l'ennemi de notre âme, avec celui qui nous détruit, qui veut nous détruire. Comme disait l'apôtre Paul, souvent abattu, souvent en conflit, souvent dans les difficultés, mais toujours secouru, toujours aidé, toujours assisté par l'Éternel. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on meure dans une ultime bataille. La volonté de Dieu, c'est qu'on vive pour lui jusqu'à la fin. Que l'on vive pour lui jusqu'à la fin. Alors retenez bien ceci, une démonstration d'esprit et de puissance. Mais dans quel but ? C'est l'apôtre Paul qui le disait, afin que votre foi soit fondée. On n'est pas habité d'une grande puissance pour casser, détruire tout ce qui est autour de nous. Je le lis pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi donc ? Pas pour que vous écrasiez tout le monde, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On devrait tous être des Samson, puisque l'Éternel nous a choisis avant même que l'on soit né. Et si vous êtes là, c'est que le Seigneur a un plan pour votre vie. Et on devrait tous certainement se consacrer à l'Éternel et dire « Seigneur, tu as été crucifié pour moi, je te donne ma vie et débarrasse-moi de tout ce qui nuit à notre relation, débarrasse-moi de tout ce qui ne te plaît pas ». On devrait tous être dans cet état-là. Et je pense que si vous le désirez, vous l'êtes, eh bien vous ne terminerez pas comme Samson. L'idée, évidemment, c'est de comprendre son héritage, d'où on vient, son éducation, et interroger, discuter, comprendre ce que les autres ont pu vivre et demeurer dans ce plan divin, dans ce plan que Dieu a pour nous. C'est quand même vous qui choisissez. Et puis faites les bons choix. N'abusez jamais de votre position, encore moins de la grâce et encore moins des dons que Dieu vous a donnés, mais profitez-en et mettez-les à profit, et que tout cela serve pour le bien et l'édification de plusieurs et de vous, et surtout pour la gloire de Dieu. Amen. On s'incline ensemble et on invoque l'Éternel. On peut se lever peut-être pour terminer par la prière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es merveilleux, parce que tu es fidèle. Nous te rendons grâce parce que tu es glorieux, là aussi tu fais de belles et de grandes choses. Nous te demandons d'étendre ta main, nous te demandons de bénir nos cœurs et nos vies. Nous sommes admiratifs devant ce que tu es capable de faire avec quelqu'un dès sa naissance. Mais nous comprenons que nous avons évidemment besoin de considérer notre relation avec toi comme quelque chose d'important, comme quelque chose de capital. Merci pour ce que nous sommes, parce que tu nous donnes de vaincre nos difficultés, nos peines par ta grâce. Tu nous rends forts par ta grâce. Même l'apôtre Paul était convaincu que c'est quand il était faible qu'il était fort. À ce moment-là, il était fort. Il en est de même pour nous. C'est dans notre faiblesse que nous considérons que nous avons tellement, tellement, tellement besoin de toi. Merci de ta bonté, merci de ta faveur, merci de ta grâce. À toi l'honneur et la louange pour tes bontés. Raccompagne-nous dans ta paix, raccompagne-nous dans ta grâce. Fais-nous du bien, ô Dieu. Accorde-nous ta faveur en toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen.